Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irong Mochinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois le professeur Chibangu Kalala de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Cet ancien ministre s'exprime sur son ouvrage qu'il vient de publier intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ». Bienvenue à ce dernier numéro de Grande Interview, puisqu'à partir de ce lundi 5 septembre 2022, Radio Okapi aura une nouvelle grille des programmes dans laquelle vous allez retrouver l'émission Grand Témoin à la place de Grande Interview. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Professeur Chibangu Kalala, bonjour.
Bonjour Alain Irunga.
Comment allez-vous, professeur?
Eh bien, je me porte bien.
Vous venez de publier un ouvrage très intéressant intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitiques et droit international » aux éditions presse universitaire congolaise. Ouvrage de 920 pages, professeur. Pour commencer, pourquoi ce titre?
Merci beaucoup Alain Irunga. Je voulais résoudre un problème, ou si vous voulez, combler une grande lacune. Nous avons un vaste territoire sur lequel le soleil ne se couche pas. Et nous, Congolais, nous bombons la poitrine tous les jours en disant que nous avons un territoire très vaste, très riche, à juste titre, et convoité par des forces étrangères. Mais nous ne savons pas comment ce territoire est né, qui a créé ce territoire, dans quelles circonstances, quand, comment, et quels sont les combats qu'il a menés pour tracer ce territoire, le délimiter, quels sont les soutiens qu'il a pu avoir. Nous n'avons pas beaucoup de détails là-dessus. Nous ressemblons un peu à quelqu'un qui est propriétaire d'une grande parcelle. Il dit que c'est sa parcelle, mais il n'a pas les titres de propriété prévus par la loi sur cette parcelle. Et puis, sa parcelle n'est pas clôturée. Et donc, n'importe quel voisin ou quelqu'un de mauvaise part peut venir le chasser, parce qu'il n'a rien. Et c'est ça l'impression que nous avions. J'ai voulu, en lisant ce livre, remettre au peuple congolais ces titres des propriétés qui sont internationaux sur notre territoire et montrer au peuple congolais que notre territoire n'a pas été clôturé complètement. Il y a des parties où on a mis la clôture, ce qu'on appelle les bornes, mais il y a des parties où on n'a pas mis des bornes. Et même là où il y a des bornes, la clôture, ce sont des vieilles bornes, des vieux murs construits au 19e siècle, ça fait plus de 100 siècles, qui ont disparu, qui ont détruit, etc. Et donc il y a des menaces. Et ce qu'il faut faire, premièrement, je vous donne vos titres de propriété qui sont cachés dans des archives des pays européens. Ici, sur place, nous n'avons pas grand-chose. Mais pour arriver à ces titres de propriétés internationaux, qui sont des traités et accords internationaux, qu'est-ce qu'il fallait faire à Lyon? Il faut savoir comment nous sommes arrivés à avoir ces titres de propriété. Donc, il fallait faire un peu la géographie, faire un peu de l'histoire et faire de la géopolitique. La géopolitique qui signifie des rivalités, la science de l'État, la science des rivalités sur le territoire, sur un territoire bien déterminé. Et donc c'est pour cela que le titre principal c'est les 11 frontières de la RDC que nous avons aujourd'hui, montrer comment on a tracé ces frontières au 19e siècle, c'est très important, et quels sont les titres des propriétés, les documents qui ont été signés pour tracer les frontières de ces territoires. Il faut les retrouver, les remettre au peuple congolais et expliquer également, mais ça n'a pas été un jeu d'enfant, les Belges qui ont tracé ces frontières ont mené des combats géopolitiques, géostratégiques, des intérêts économiques, géostratégiques contre les Allemands, les Français, les Belges et les Portugais. Pour avoir ce territoire. C'est pour cela qu'il y a géopolitique et droit international.
Alors, professeur, dans la géographie, l'histoire de la RDC, on nous a appris qu'il y a 9 frontières. Comment vous en êtes arrivé à 11?
Oui, il y a 9 frontières avec les pays voisins. 9 pays voisins qu'on connaît, avec l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, Soudan du Sud aujourd'hui, République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Ça fait 9. Mais il y a 2 autres frontières. dont je parle dans le livre, et qui fait que nous arrivons à 11. La dixième frontière, c'est la frontière de l'air, dans l'espace. Et donc, Alain Jung, puisque nous n'habitons pas dans l'espace, nous n'avons pas conscience que nous avons des frontières dans l'air. Mais je vais vous donner des cas récents, qui est très connu ici dans le monde entier aujourd'hui. Vous avez les pays européens, beaucoup de pays d'Europe, ont fermé leurs frontières de leur territoire aérien contre les avions de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mais même nous aussi, notre gouvernement, très récemment, au mois de juin, le gouvernement congolais a décidé de fermer nos frontières aériennes, de fermer notre territoire aérien aux avions de Rwandair, de la compagnie d'aviation Rwandair. Donc ça signifie que nous avons des frontières dans l'air et qu'il y a des organismes de l'État qui surveillent ces frontières. Aucun étranger, aucun avion ne peut pas pénétrer dans notre territoire aérien sans notre autorisation.
Ça, c'est la dixième frontière.
Ça, c'est la dixième
et
frontière.
La onzième.
La onzième, c'est ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC. Nous avons un territoire bleu qui est dans l'océan Atlantique. Et nous avons tracé les frontières de ces territoires bleus, ça c'est mon terme à moi, territoire bleu, en 2009. C'est une frontière récente, nous l'avons créée récemment. Le Parlement congolais a voté une loi le 7 mai 2009, qui a été promulguée par l'ancien président Jean Kabila. Ce territoire, c'est dans l'océan Atlantique, et qui mesure à peu près 670 kilomètres, à partir de Sianfumo, de Moanda, en allant vers le milieu de l'océan Atlantique, jusqu'à 670 kilomètres. C'est beaucoup ça. Mais là où cette frontière s'arrête à 670 kilomètres, il y a une frontière internationale qui sépare notre territoire bleu de la haute mer. Donc l'espace international qu'on appelle la haute mer. Donc il y a cette frontière-là qui sépare, je répète, le territoire bleu de la RDC de la zone internationale sur 42 kilomètres de largeur. C'est cette frontière-là que j'appelle la 11e frontière de la RDC.
Alors, professeur, l'ouvrage a été présenté en deux temps. D'abord à Bruxelles le 28 juin 2022 et ici à Kinshasa le mercredi 31 août 2022 au Pullman Hotel. Pourquoi Bruxelles et Kinshasa?
Pourquoi Bruxelles et Kinshasa? Parce que l'ouvrage a été édité, a été fabriqué en Belgique. Ici, on n'a pas encore une bonne technologie en matière d'impression des ouvrages. Donc la qualité, la mise en page, etc. Parce que c'est un ouvrage, comme vous l'avez dit, 920 pages. C'est un ouvrage qui va faire des siècles. Il faut que ce soit bien conservé. Vous voyez la qualité. Et donc, je fais appel à l'expertise belge, donc des imprimeurs, des éditeurs, des metteurs en page, qui ont fabriqué cet ouvrage en Belgique. Et quand c'est sorti en Belgique, les Belges qui l'ont vu ont insisté pour que je leur donne une conférence sur le livre, parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas finalement le travail qui a été fait sur la création de ce territoire, des frontières. Il n'y a pas beaucoup d'écrit là-dessus. Ils étaient très enthousiastes de connaître comment, et même qu'il y a 11 frontières, la question que vous avez posée, bon, beaucoup de gens ne le savent pas, et je donnais cette conférence à l'hôtel de ville de Bruxelles, mais ce n'était pas le vernissage, c'était juste pour parler de l'ouvrage, pour la diaspora congolaise qui sont là-bas, et pour les Belges eux-mêmes, et ils étaient très contents. Et après, il fallait que cet ouvrage soit présenté au peuple congolais lui-même, qui est le dessinateur principal de l'ouvrage, qui se soit présenté ici à Kinshasa, et faire le vernissage, comme vous avez vu.
Professeur, nous allons survoler l'ouvrage. Évidemment, nous recommandons à tous les auditeurs et internautes qui nous suivent de se les procurer, parce que j'ai personnellement assisté à la conférence que vous avez tenue ici à Kinshasa dans un voyage où vous nous avez magnifiquement conduit et de très belles manières. On a découvert beaucoup de très bonnes choses. Alors, pour commencer, professeur, comment est-ce que ce territoire que nous avons aujourd'hui, que nous appelons République démocratique du Congo, a été créé?
Il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses. Avec mes recherches, j'ai essayé d'arriver à la vérité. La recherche scientifique, c'est pour arriver à la vérité. Première chose qu'il faut affirmer, et tout le monde le comprend, ce ne sont pas nos ancêtres qui ont créé ce territoire de 2 345 000 km². Ce ne sont pas eux qui ont fait ce territoire. C'est vrai que nous sommes là depuis des millénaires, hein, regroupés dans nos chefferies, dans nos villages, dans quelques royaumes qui étaient là à l'époque avec beaucoup de difficultés. Mais ce territoire tel que nous l'avons aujourd'hui, ce n'est pas une création de nos ancêtres. Ça, c'est évident. Mais ce territoire a été créé par un homme, un roi, le roi des Belges. Son père, c'était un Allemand. C'est lui qui a eu l'idée, le roi Léopold II, le roi des Belges, qui cherchait une colonie. Au XIXe siècle, la géopolitique classique, la mondialisation du XIXe siècle, c'était des conquêtes des terres en Afrique. Alors lui aussi, il voulait avoir une colonie. Et il a eu une chance exceptionnelle avec Stanley, un journaliste comme vous. Hein. C'était un Anglais qui était un aventurier, qui vient en recherche, qui est arrivé au centre de l'Afrique. Je fais grâce, c'est une longue histoire. Et s'est associé avec Stanley pour pouvoir créer un État ici, dans le bassin du fleuve Congo, pour avoir une colonie. Mais ce n'était pas facile. Le territoire était très convoité. Bon, les Européens ne connaissaient pas grand-chose de l'Afrique. D'ailleurs, lui-même, Stanley, parlait du continent mystérieux. Dans cette association, il a envoyé des expéditions, des Belges, des Anglais, il a recruté des jeunes Européens pour dire « Allez m'aider à avoir une colonie, avoir des terres en Afrique centrale. » Stanley est venu, il l'a aidé à contacter des chefs coutumiers qui étaient là, à signer des papiers avec eux qu'on appelle des traités pour qu'ils reconnaissent la souveraineté de Léopold II sur les terres africaine du bassin du Congo, en négociant avec des chefs coutumiers, en leur donnant des cadeaux, des drapeaux, des habits, etc. Et il a occupé les territoires. Mais il fallait par après faire reconnaître par le monde entier qu'il est propriétaire des terres en Afrique centrale, dans le bassin du fleuve Congo, et qu'il a créé un État en association avec ce qu'ils appellent les États libres d'Afrique centrale, et il fallait que la communauté internationale, les grandes puissances de l'époque, lui reconnaissent comme un chef d'État, d'un État créé en Afrique centrale. Et cela a eu lieu à la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a été convoquée sur une proposition du Portugal pour faire quoi? Pour faire deux choses. Premièrement, assurer la liberté de commerce et de navigation sur le fleuve Congo. La politique de la porte ouverte, tout le monde doit venir faire les affaires au Congo, gagner de l'argent, sans restriction, sans payer les droits des douanes, les taxes et les impôts, etc. Et donc c'est ainsi qu'à Berlin, on a décidé de reconnaître que Léopold II est propriétaire d'un vaste territoire dans le bassin du Congo, qu'il va créer un État sur ce vaste territoire, et qu'il va ouvrir ce territoire au commerce international, que tout le monde viendra faire des affaires là-dedans. Mais qu'en même temps, il faut aussi veiller à respecter les intérêts des populations locales, combattre la traite des Noirs, donc l'esclavage, et puis aider ces populations aussi à aller de l'avant, les aider, ce qu'on appelait à l'époque la civilisation, c'est une bonne chose, aider les populations locales, veiller à leurs intérêts, ne pas les malmener, etc., et combattre la traite des Noirs. Voilà ce qui a été décidé, en résumé, à la conférence de Berlin. Et alors là, Léopold II avait maintenant une légitimité internationale. Toutes les grandes puissances de l'époque, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc., la Russie actuelle qui est à Berlin, parce qu'il y avait quatre pays à Berlin, et ils ont reconnu que Léopold II est chef de l'État, d'un État créé dans le bassin du Congo. Et quelques mois après, nous sommes là au 26 février 1885, au mois d'avril suivant, le Parlement belge reconnaît que Léopold II, il est roi des Belges, c'est bien, mais on lui donne aussi l'autorisation d'être roi, d'être chef de l'État, d'un autre État en Afrique centrale. Et au mois d'août 1885, Léopold II communique au monde entier, aux grandes puissances, les frontières de l'État indépendant du Congo qu'il venait de créer. Et c'est ainsi que Léopold II a eu ce territoire. Au mois de mai, qu'il a créé l'État indépendant du Congo, bien sûr, avec la reconnaissance de la communauté internationale.
Radio Okapi. Grande interview.
Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois le professeur Chibangu Kalala de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Cet ancien ministre s'exprime sur son ouvrage qu'il vient de publier intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ».
Professeur, lors de votre conférence ici à Kinshasa, nous avons par exemple découvert un autre côté, une autre image que l'on nous donne souvent du roi Léopold II, celle d'un monarque sanguinaire qui a coupé des mains aux Congolais. Mais dans votre conférence, on a plutôt retrouvé un Léopold II fin négociateur, un Léopold II très stratégique, un Léopold II prêt à céder un peu de terrain aussi, très souple. Mais comment vous comprenez ces deux images contradictoires d'une même personne?
Oui, merci Jean-Claude. Le débat sur la colonisation a été mené depuis des décennies par des intellectuels africains. Tout a été dit à ce sujet. Ceux qui disent oui, mais il y avait quand même des aspects positifs dans la colonisation. Il y en a qui disent non, tout était négatif, etc. Je ne suis pas dans ce débat-là. J'ai lu le livre du poète, je n'ai jamais lu un beau texte comme celui du poète Aimé Césaire. Discours sur le colonialisme, il condamne la colonisation dans les termes que je dirais, les termes éternels, catégoriques. Donc, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est une image purement scientifique et pragmatique. Nous avons un territoire. Qui a créé ce territoire? Comment nous l'avons aujourd'hui? Nous n'avons pas eu un conquérant noir du genre Chaka Zulu en Afrique australe, ou des Garibaldi en Italie, qui a mené des combats, des guerres, pour soumettre toutes les tribus, les villages, les chefferies, les royaumes, pour les unifier et créer un seul territoire, le territoire que nous avons aujourd'hui. On n'a pas fait ça. Mais c'est un étranger qui a créé ce territoire, qui nous a rassemblés dans ce territoire que nous avons aujourd'hui, qui a créé l'État congolais. C'est le pôle 2. Si nous nous appelons aujourd'hui Congolais, mais c'est Léopold II qui a dit que nous sommes Congolais, c'est lui qui a créé cet État, l'État congolais. Et nous sommes des Congolais, mais si nous disons que nous sommes des Congolais, mais c'est Léopold II qui dit que vous êtes des Congolais, c'est votre territoire. Donc, sur ce plan-là, Léopold II a créé ce territoire et il l'a transmis aux Belges, les Belges qui l'ont donné par après, et donc c'est un héritage éternel. C'est notre patrimoine, Alain Irung, le patrimoine matériel du peuple congolais, le plus important, le plus grand, le plus sacré que nous avons, c'est quel patrimoine matériel? C'est le territoire que nous avons aujourd'hui, rempli des richesses que nous avons, en termes d'eau, en termes d'étendue, en termes des richesses du sol, du sous-sol, tout ce que vous connaissez, avec une population nombreuse. Bon, c'est Léopold II qui nous a rassemblés, qui a créé ce territoire, qui nous a rassemblés sur ce territoire. Donc, de ce côté-là, on ne va pas falsifier l'histoire. Et il y a des combats, vous allez lire dans le livre, j'invite les Congolais à acheter ce livre, allez, les combats qu'il a menés pour avoir ce territoire, ben, il y a eu des combats. Il a dû affronter les Portugais, affronter les Anglais, affronter les Allemands, affronter les Français. Ce n'était pas des cadeaux, il y a eu des combats, des batailles, des négociations, il y a eu même des échanges de coups de feu au niveau des zones frontalières. Et donc, il a fait ce travail-là, et après la Belgique a poursuivi pour parachever la délimitation du territoire. C'est vrai qu'il y a des zones d'ombre, de côté. Il y a la partie lumière, mais il y a aussi la partie sombre. Il y a eu dans l'exploitation, parce que c'était le Congo, c'était une plantation, c'était une affaire privée. Bon, Léopold II a commencé ce travail avec son argent. Il a dépensé son argent. Il a dû emprunter de l'argent auprès des banques, même auprès de l'État belge, de l'argent qu'il devait rembourser. Pas, c'était une affaire privée à lui. Bon, nous sommes au 19e siècle. Alors, les fonctionnaires zélés ne manquent pas. Bon, ceux qui veulent se faire voir, se faire aimer par le chef, et qui se livrent à des brutalités. Il y a eu des brutalités. Et c'est Léopold II lui-même qui a créé, à ma connaissance, la première commission d'enquête internationale. Nous sommes en 1904.
Sur ces exactions-là.
Il y a eu des rapports, des protestations, des condamnations. On a dit au Congo, on coupe les mains, on brutalise les Noirs, alors qu'à Berlin, nous avons dit qu'il faut respecter les populations locales, qu'il faut respecter le bien-être matériel et morale des populations locales, c'est-à-dire de l'intérêt général. Il faut aider ces gens-là. Mais on est en train de torturer les Noirs là-bas. Si les Noirs n'amènent pas du caoutchouc, eh bien, on lui coupe les bras, etc. C'est très grave. Léopoldo a dit, bon, écoutez, je crée une commission d'enquête internationale pour aller voir, me faire le rapport, pour dire, bon, ce qu'on raconte là, c'est vrai ou c'est faux. Il agit comme un chef d'État. Et la commission composée d'un juge, des juges, des juristes, hein, un juge italien, un juge suisse, un juge belge, ils sont venus ici, ils ont mené l'enquête, et en 1905, ils ont fait le rapport pour dire, oui, ça ne marche pas. Il y a des abus, des atrocités, il faut tout faire pour y mettre fin. C'est vrai, en tant que chef d'État, Léopold II, il est responsable. Bon, si quelque chose ne marche pas bien dans votre pays, dans votre maison, dans votre foyer, vous êtes responsable, mais vous n'êtes pas coupable. À mon avis, les historiens n'ont pas encore donné des preuves, hein. Peut-être qu'il y en aura un jour, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a donné des preuves que c'est Léopold II qui a donné les ordres aux blancs qui étaient ici, les coloniaux qui étaient ici, pour dire ouais, allez couper les mains, couper ceci, torturer les noirs s'ils n'amènent pas du caoutchouc, etc. Mais il est responsable en tant que chef, comme aujourd'hui s'il y a des choses qui ne marchent pas en RDC, c'est le gouvernement qui est responsable de ce qui ne marche pas. Mais ils ne sont pas des coupables, des criminels qui ont fait cela.
Alors professeur, de ces 11 frontières de la RDC, laquelle a le plus posé des problèmes?
Oui. Donc, je veux, pour terminer sur Léopold II, pour moi, ça a été un génie, un géopoliticien remarquable, extraordinaire. Un petit roi d'un petit pays qui a eu à mobiliser l'opinion internationale, les grandes puissances, en jouant les grandes puissances les unes contre les autres, en les manipulant, et pour avoir ce territoire que nous avons aujourd'hui. En fait, je pourrais dire que Léopold II a fait son travail, c'était pour nous, pour finalement notre territoire. Sinon, on n'allait pas l'avoir. On n'allait pas être congolais aujourd'hui avec ce territoire. Sur ce point-là, sur ce plan-là, moi, j'ai une grande admiration pour Léopold II, pour l'héritage qu'il nous a laissé. Mais pour les autres, les droits de l'homme, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est tout à fait normal, c'est condamnable. Le roi Philippe, le roi des Belges, est venu ici, il a répété la même chose, que la colonisation, c'était un régime de domination, un régime d'exploitation, qui a eu des exactions, qui a eu des frustrations, des discriminations, du racisme. C'était condamnable. C'est un descendant, le descendant de Léopold II. Et donc ça, c'est un constat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, les frontières, c'est surtout la frontière orientale où il y a eu beaucoup de problèmes. Frontière avec l'Ouganda, frontière avec le Rwanda. Léopold II et après la Belgique ont eu des combats terribles là-bas, contre les Allemands qui étaient au Rwanda et au Burundi, ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique orientale allemande, et avec les Anglais, la frontière du 30e méridien, la frontière avec l'Ouganda. Beaucoup de problèmes, ils étaient même sur un pied de guerre pour se battre. Du côté de la Zambie, sur une partie de la frontière, la partie entre le lac Tanganyika et le lac Moero, dans le sud là-bas, beaucoup de divergences, à tel point que il y a eu des combats jusqu'il y a 2 ans. On s'est battu là-bas. Vous avez appris, les troupes zambiennes sont arrivées. La partie de Moba, dans Tanganyika, du lac Tanganyika jusqu'à Kumuro, vers Pweto. On se bat là-bas depuis des siècles. Beaucoup de divergences. À tel point qu'on a appelé ces divergences en 1989, par Mobutu et président Kaunda, depuis la conférence de Berlin. Les Belges et les Anglais ne sont pas mis d'accord. Divergence. Et même si on a réglé ce problème en 1989, finalement, on n'a pas délimité, on n'a pas posé les bornes sur le terrain pendant plus de 30 ans. Ce n'est que l'année dernière, avec l'arrivée du président de la République actuelle, le président Tshisekedi, qu'on a commencé à poser les bornes sur cette partie, parce qu'il y avait toujours des conflits, des combats, des morts, des désordres. On a commencé à faire ce travail, on l'a fait, ce n'est pas encore terminé, mais on a commencé, on a réglé sur une bonne partie de force. Donc ce sont ces frontières-là qui ont créé beaucoup de problèmes à Léopold II. Il y a aussi, au niveau de Centrafrique, avec les Français, sur la rivière Mbomou et la rivière Uele, il y a eu des divergences terribles là-bas, des échanges de coups de feu entre les forces des Belges qui étaient là, donc la force publique, les tirailleurs sénégalais des Français, parce qu'on disputait le tracé de la frontière. C'était des tensions partout. Mais, en résumé, il y a eu des endroits où c'était un peu plus calme, c'est avec les Portugais, avec l'Angola, sauf dans la région du Lunda, la boucle de Dilolo, la région du Lunda, le Haut-Kassai, le Haut-Lulua, etc., Kwango, Luakeno, etc., vers Dilolo et Sandowa. Là, il y a eu encore beaucoup de problèmes, mais on a failli en venir aux mains, mais on a réglé le problème par la négociation.
Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois le professeur Tshibangu Kalala de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Cet ancien ministre s'exprime sur son ouvrage qu'il vient de publier intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ».
Dans le contexte d'aujourd'hui, où la RDC est agressée par le M23 sous couvert du Rwanda, comme le ne cesse de le préciser le gouvernement congolais, en rapport avec votre ouvrage, quels sont les enjeux autour des frontières?
Oui. Beaucoup de gens qui ont lu le livre, qui ont suivi la conférence, m'ont dit, professeur, votre livre tombe à point nommé. C'est l'expression qui est revenue plusieurs fois dans le contexte. Quand j'ai commencé cet ouvrage de recherche, c'était en 2012. C'était avec l'affaire de M23 qui venait d'occuper Goma, etc. Et l'Église catholique avait lancé une protestation populaire en disant le 1er août, nous devons marcher à travers le pays pour protester contre la balkanisation, contre l'occupation de Goma, etc. par le M23. C'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, écoutez, il faut absolument régler le problème des frontières. Et à l'époque, le président Pasteur Bizimungu, ce président du Rwanda, avait dit bien avant, pendant la guerre civile, que nous devons faire convoquer la conférence de Berlin 2 pour revoir les frontières entre le Rwanda et la RDC. Sous-entendant par là qu'il y aurait des territoires rwandais en RDC qu'il fallait récupérer, voyez-vous. Mais c'était une erreur monumentale, mais qui est dû à l'ignorance, aux idées reçues. Parce que justement, à Berlin, on n'a pas partagé l'Afrique à Berlin. On n'a pas tracé les frontières à Berlin. C'était exclu qu'on ne devait même pas parler des frontières à Berlin. Et d'ailleurs, à Berlin, le Rwanda n'était même pas connu. Personne ne connaissait le Rwanda à Berlin. On ne pouvait pas faire les choses. Bon, ça, c'est un débat qu'on peut mener. Ce livre a l'avantage de remettre au peuple congolais tous les titres de propriété internationaux. Comme disent les Kinois, Buku ya Lupango. Donc les Congolais aujourd'hui, ils ont leur Buku ya Lupango. Notre Lupango là, les 2 345 000 km², nous avons nos titres de propriété légaux et qui sont internationaux.
Opposables à tous.
Voyez-vous, personne ne peut venir nous déranger aujourd'hui. S'ils bougent, ils nous disent, ouais, ok, vous avez des prétentions sur telle ou telle partie de notre territoire, voici nos titres de propriété. Montrez-nous les vôtres. Alors, si on n'était pas d'accord, on va devant la Cour internationale de justice qui va nous départager. Et donc, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les titres de propriété internationaux sur notre territoire sont maintenant à la disposition du peuple congolais. Et ça tombe à point nommé, justement, avec ce que vous avez souligné, et les Congolais qui parlent tout le temps de la balkanisation, qui craignent qu'il y a des tentatives de puissances étrangères qui cherchent à nous arracher tel ou tel morceau de notre territoire, en disant bon, ils ont déjà un grand territoire, on va prendre une partie. Mais là, ça ne peut pas se faire, comme le président de la République a dit dernièrement, en matière d'intégrité de notre territoire, il n'y a ni transaction, ni compromission. Donc notre territoire est intangible, il est éternel, tel qu'il est défini, justement, dans les titres des propriétés internationales qui sont dans cet ouvrage. Mais, comme je l'ai dit aussi dans l'ouvrage, je le répète ici, il y a des endroits où il y a des incertitudes, où il y a des imprécisions. Il appartient à notre gouvernement, en négociation avec les pays voisins, pour arriver à apporter des précisions, des clartés, pour que là où il y a quelques difficultés, qu'il soit fait. Mais l'essentiel est déjà là-bas.
C'est par exemple quelle partie, professeur, qui pose encore problème?
Nous avons la frontière avec le Soudan du Sud, 787 kilomètres sur la terre. C'est une frontière totalement terrestre. Là où nous avons des problèmes avec les Mororo, les éleveurs qui viennent de Centrafrique ou du Tchad, qui viennent là-bas, etc. Il faut faire la démarcation. Donc il faut poser les bornes. Ça n'a pas été fait depuis la conférence de Berlin. Plus de 130 ans. On n'a jamais fait ce travail. Ça crée des incertitudes. Il faut régler ce problème. Nous avons le problème avec l'Ouganda, par exemple, au sud du lac Albert, sur la presqu'île de Rukwanzi, dans le delta de la rivière Semiliki, là où il y a le pétrole. Là où on se bat là-bas, Irumu, etc., cette partie, il y a des incertitudes sur la frontière à ce niveau-là, alors qu'il y a des richesses minières et qu'il faut régler ce problème-là. Voyez-vous, dans le livre, vous trouverez les travaux qui étaient déjà faits en 1959, après l'indépendance, entre les Belges et les Anglais, pour essayer de déterminer de manière précise la frontière dans le delta de la rivière Semiliki au sud, là où la Semiliki se jette dans le lac Albert. Il y a des incertitudes là-bas, sur le tracé de la frontière. Il faut régler ce problème le plus vite possible. Il y a des travaux que j'ai publiés dans le livre de 1959 où on donnait des recommandations par les Belges et l'Anglais sur la manière de régler ce problème. Il faut les reprendre pour régler ce problème de manière définitive. Il y a le littoral sur l'océan Atlantique, ce que j'appelle le territoire bleu. Vous savez... Le journal Le Potentiel a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'articles là-dessus. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito était parti au Sénat en 2010 pour s'expliquer devant la représentation nationale sur le problème du pétrole au large de Moanda.
Dans la zone d'intérêt commun.
Oui, la zone d'intérêt commun. Ce sont les ZIC. Mais nous avons fait la délimitation de cet espace, ce que j'appelle le territoire bleu, par une loi votée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État. Et nous l'avons fait conformément aux règles du droit international. Et donc nous avons notre zone économique exclusive sur là-bas, quand il se passe. L'Angola n'est pas d'accord. Il n'accepte pas notre espace maritime, la zone économique exclusive et la délimitation faite par notre peuple pour ce territoire. Nous nous disons que c'est faux, le droit international nous permet d'avoir une zone économique exclusive. L'enjeu, c'est quoi? C'est le pétrole qui est dans le sous-sol. Le pétrole qu'on exploite par Perenco, il est sur le plateau continental. Et c'est dans notre espace. Mais plus loin vers le sud, il y a encore des puits de pétrole. Et comme ces puits de pétrole sont à cheval entre la frontière maritime tracée par la RDC en 2009 et la frontière maritime de l'Angola vers Cabinda et vers Soyo, eh bien, dans cette zone intermédiaire qui est à cheval, il y a des puits de pétrole. Alors, on a dit, oui, bon, on peut exploiter ça ensemble, donc zone d'intérêt commun. Bon, les Congolais disent, non, pas question. On ne peut pas commencer à exploiter le pétrole sans avoir déterminé, mais ce pétrole-là, il est en Angola ou il est en RDC? Non, sinon, vous allez demander à un pays voisin de venir exploiter notre pétrole. Et ces puits-là sont exploités aujourd'hui par l'Angola. Il faut que ce problème, Alain Irung, je profite du micro que vous m'avez donné, ce problème doit être résolu et le plus vite possible. Il ne faut pas que le Congolais ait le sentiment, à tort ou à raison, parce qu'il y a les experts internationaux qui écrivent à ce sujet, j'ai publié quelques documents dans le livre, qui disent que le pétrole qui est exploité par l'Angola au large de Moanda, c'est du pétrole congolais et pas angolais. Est-ce vrai? Est-ce faux? Mais la meilleure façon de régler ce problème pour éviter des tensions. Mais pour moi, il faut s'adresser à un juge international pour fixer ces limites-là. Oui, oui, pour dire, mais la frontière maritime, telle que déterminée par la RDC, c'est conforme au droit international, oui ou non? Et comme ça, la paix, on va conserver les relations de bon voisinage, les relations d'amitié avec nos frères et nos sœurs angolais. On n'a pas besoin de s'insulter, de se traiter de voleurs, de bandits, de voleurs de pétrole, etc. On n'a pas besoin de ça. Mais le problème est résolu de manière technique, en droit, par des moyens pacifiques. J'ajoute qu'une frontière qui reste indéterminée à l'aéroport, où il y a des tensions, c'est une source dangereuse de guerre et des conflits, même ouverts, entre les voisins. Et donc, là où il y a des problèmes, des incertitudes, des divergences, il faut les régler le plus vite possible et sans attendre. Et notre endroit, je pourrais terminer par là, ce sont les îles. Nous avons des îles, nous avons des îlots dans le fleuve Congo et dans la rivière Ubangi. Ubangi, cette frontière avec le Congo-Brazzaville, c'est 1544 kilomètres. Bon. Il y a beaucoup d'îles rivières, qui n'ont pas de nationalité. On ne sait pas si cette île appartient au Congo-Brazzaville ou appartient à la RDC. Cette île-là, qui est dans l'Ubangi, appartient à la République centrafricaine ou appartient à la RDC. Donc, des îles sans nationalité. Les Belges et les Français avaient tenté de régler le problème. Les Belges étaient prêts. Ils ont même fait des propositions qui sont dans le livre que je propose. Les Français ont reculé en disant « Nous n'avons pas l'argent. Il faut des techniciens pour faire ce travail. C'est compliqué. Il faut attendre. Il faut attendre. » Jusqu'à l'accession à l'indépendance du Congo-Brazzaville et de notre pays. La question est restée comme ça. Il faut résoudre ça. Il faut partager ces îles entre les deux pays. Qu'on sache que telle île est pour la RDC, telle autre île et c'est pour le Congo-Brazzaville ou pour la RDC. C'est comme ça que nous allons consolider la paix, la sécurité, les relations d'amitié et des bons visages avec tous les pays et consolider, si vous voulez, nos titres de propriété que nous avons sur notre vaste territoire. Donc ça, c'est une urgence. Il faut régler ce problème. Parce que si demain, on découvre des richesses dans ces îles, des tourbières ou du pétrole ou des richesses minières, ça sera la guerre entre deux armées.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et supervision, Alain Irung-Mouchige. Coordination, Michel Kifindangoy. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission, ainsi que plusieurs autres numéros de Grande interview, en allant sur www.radiookapi.net. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix.